Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Eh bien bonjour, re-bienvenue dans votre émission Mon Chaussure. Aujourd'hui nous sommes avec Masha Bastide, une précieuse enseignante et une grande connaisseuse de la danse contemporaine. Bonjour Masha.
Bonjour.
Alors je vais te demander peut-être de présenter qui tu es, tu peux dire ce que tu souhaites et après présenter ta pratique.
Alors je suis professeure de danse à Montpellier. J'enseigne à Montpellier depuis 2004. J'ai eu mon diplôme de professeur de danse, mention moderne jazz, au Crêpes de Montpellier. Et voilà, et depuis j'enseigne. À la base, je suis une artiste pluridisciplinaire. Je suis issue de l'École des Beaux-Arts de Toulouse et de Bruxelles. Ah. Et donc, j'ai jamais non plus arrêté de m'exprimer au niveau artistique à côté. Et je suis du coup chorégraphe de la compagnie Pulsar à Montpellier.
Pulsar, oui. On en a entendu parler. D'accord. Et comment tu pourrais décrire ta pratique? Dans quel spectre? Quel cadre?
Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses différentes. Il y a ce que j'enseigne. Ce que j'enseigne, c'est de la danse contemporaine et de la danse moderne jazz. Et il y a ce que je danse en tant que danseuse chorégraphe. Et là, c'est plus une danse qui mélange des expressions, qui se mélange à d'autres expressions artistiques, qu'elles soient vidéo, peinture, musique, sculpture, installation, ça tend vers un art total, assez immersif. Et c'est compliqué de donner une définition, dans le sens où c'est le résultat de plein d'expressions artistiques mélangées.
D'accord, donc tu es vraiment nourri dans un sens holistique.
C'est ça.
Exactement. Très bien. Est-ce que tu as peut-être des anecdotes que tu pourrais raconter à nos auditeurs?
Des anecdotes, mais justement par rapport à cette histoire de définir ce qu'est la danse. Avec ma compagnie Pulsar, on danse depuis des années, mais plus depuis 2010, on va dire, on est assez actif. Et les spectacles varient, c'est souvent sous forme de performances dans des vernissages d'art contemporain. Okay. Et l'anecdote, c'est que souvent, non pas souvent, mais deux fois en tout cas, en plein spectacle, il y a une personne qui s'est levée en disant « c'est pas de la danse ça !» et qui est partie. Et nous, ça nous fait beaucoup rire, ça reste
dans la mémoire.
Quelque chose qui nous fait rire, ouais.
Bien sûr, parce que c'est toujours intéressant de voir comment le spectateur aussi reçoit
et réagit. Et justement, moi, mon but, c'est qu'il y ait... que la danse soit libre et qu'elle reste indéfinissable.
Elle est très indisciplinée, la danse, c'est quand même un champ très, très indiscipliné. Par exemple, dans l'histoire de la danse, elle se laisse presque jamais définir. Elle est toujours en dehors du cadre.
Quelque chose qui... La danse, par exemple, les chorégraphes, souvent sont issus d'un mouvement et interrogent leurs acquis dans ce mouvement et en construisent un autre. Et c'est toujours la mort de quelque chose qui fait naître quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment la danse, mais de toute façon, on doit terminer un mouvement pour en faire un autre. Donc c'est quelque chose qui est en mouvement. Après, au niveau de la discipline, il y a quand même aussi tout un penchant de la danse qui est issu d'un amour de la discipline. Parce que plus on va entraîner son corps, et plus on sera apte à l'utiliser pour exprimer sa rébellion. Donc c'est un peu... c'est une pièce à deux faces. discipline et non à la discipline.
Discipline et liberté, non ?
Voilà.
C'est toujours, oui. C'est ça qu'on apprend beaucoup avec les travails du corps. C'est toujours un champ qui pose beaucoup de questions sur la liberté, justement, sur qu'est-ce qu'une discipline, comment ça se constitue. J'aimerais te poser une question sur ton enfance. Comment était ton enfance ? Où est-ce que cette envie de danser a commencé ?
Alors, je suis issue d'une famille... moi, je suis métisse. Ma mère est blonde aux yeux bleus. Elle est moitié française et moitié russe. Et donc, toutes ses origines russes, c'était une grande famille de danseurs et de musiciens.
D'accord.
De l'autre côté, mon papa était noir, mais il est né à Paris dans les années 50.
Okay.
Cela dit, il a ce qu'on appelle cette blackitude, parce que c'est quelque chose qui ne vient pas de l'éducation ni d'un pays, c'est quelque chose qui vient du sang.
Qui vient de la peau, oui.
Et voilà, et je suis là pour en témoigner l'existence et la magie.
La magie. Et comment tu pourrais nous raconter un peu plus sur cette blatitude, cette attitude qui vient, je pense que je te comprends, mais comment pourrais-tu décrire un peu plus ça, cette...
Je pense que c'est un rapport à la pesanteur.
Ah.
C'est un rapport du corps avec la terre, il me semble. Parce que j'y ai beaucoup réfléchi en tant que métisse. Et je ne m'identifie pas, je n'ai pas de revendication par rapport à ça. Parce que mon côté russe et mon côté aussi parisien est très important pour moi. Ma grand-mère notamment, qui était elle française, très française, a fait les premiers cours de danse moderne en France avec Irène Popard.
Ouais,
au début du siècle dernier. C'est quelqu'un qui a introduit la danse rythmique en France, alors qu'il n'y avait que le ballet à l'époque.
La danse rythmique, c'est laquelle ? C'est celle qui...
La danse rythmique d'Irène Popard, je vous conseille de vous renseigner.
C'est...
Voilà, toujours est-il que, du coup, je me suis beaucoup interrogée, parce que, étant à la fois blanche et noire, je ne veux pas me placer dans la revendication de quelque chose qui pourrait être mal interprété. Mais cela dit, je pense que cette blackitude, c'est... le fait de laisser passer la terre à travers le corps. C'est un rapport à la terre. Et c'est pour ça que je dis que c'est un rapport à la pesanteur. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'on laisse résonner la terre à travers nous. Mais je ne dis pas que les blancs n'en sont pas capables. Je dis juste que c'est quelque chose qui est plus facilement connecté, peut-être.
Connecté, ok.
Voilà.
Mais je vois tout à fait la notion de comment ça se transforme, ça dépend d'où tout vient et tout ce qu'on porte, non, de sous la peau. Et parce que par exemple, ça fait penser à beaucoup de séries nord-américaines, et tous les noirs qui ont vécu des atrocités aux États-Unis, et qu'aujourd'hui les États-Unis en grande partie, c'est il y a une certaine notion de ce que c'est être noir.
Alors, moi, en tant que métisse, et aussi en tant que... vous me demandiez tout à l'heure des questions sur mon enfance. Oui, voilà. Ce qui est important, c'est que j'ai été élevée par des hippies dans les années 70, et que la plus grande des valeurs, c'est celle de la différence, et de la multitude, et de la... Je ne sais pas comment exprimer ça, mais je ne suis pas dans le wokisme. Je ne rentrerai pas là-dedans. Je ne rentrerai pas dans la revendication, justement, de... Parce qu'on a souffert, alors on se met en groupe et on revendique nos trucs. Et non, c'est nous qui avons le plus souffert. Et non, c'est nous... Non, moi, tout ça, ça me dépasse. J'ai pas envie de prendre parti là-dedans. J'ai toutes les origines dans mon sang. J'ai des origines noires, des origines blanches. Des origines qui descendent de la noblesse française. Des origines qui descendent du peuple juif d'Europe de l'Est. Et du coup, dans une période comme maintenant... moi, ce que j'appelle, c'est j'aimerais que tous les êtres humains naissent avec l'amour instinctif de son prochain, et non pas la différence comme une revendication, mais comme, je sais pas, quelque chose, une richesse, quoi. On est très riches, les êtres humains, on a plein de choses à apporter. Et dans mes cours de danse contemporaine, il y a un large public, justement. Tous les âges, tous les niveaux, tous les genres... Et la danse les lie dans un espèce de bain humain. Et c'est ça qui fait du bien. C'est ça, le bonheur de la danse, c'est d'être libérée des préjugés. Voilà.
D'accord. Et tu as parlé de bonheur. Comment trouver le bonheur dans la danse?
Je pense que le premier truc, c'est arrêter de penser. Non. La danse, ça appartient au corps. Et je reconnais les gens quand ils sont en train de penser, quand ils dansent, et alors pour moi, ils ne dansent pas. Donc mon premier conseil, c'est lâcher la tête et juste laisser faire le corps.
C'est extrêmement difficile, c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de...
Alors, en tant que professeur de danse, j'ai plusieurs outils qui amènent à ça.
Ah.
Et voilà, c'est la pédagogie, quoi. Hein.
Oui.
Il y a aussi l'utilisation de très bonne musique qui peut aider.
Ça joue un rôle extrêmement important, la musique, oui. Et c'est vrai que l'histoire de la relation entre la danse et la musique, c'est toujours très inquiétant, parce qu'il y a des personnes au XXe siècle, on sait très bien que il y avait des moments où la danse ne voulait pas de la musique. Non, mm-hmm. Par exemple, quand il y avait John Cage avec Merce Cunningham, ouais, qui proposait justement de se rencontrer seulement à la fin, bah là, et pas répéter avec la musique, par exemple. Non.
Alors c'est génial ça, parce que là je reviens de Berlin avec ma compagnie, on vient de faire une performance.
C'était
où c'était un festival d'art contemporain à Berlin qui a lieu chaque année, qui s'appelle en français 48 heures Neukölln. Et sur scène, on a improvisé avec deux musiciens qui ne se connaissaient pas non plus et qui improvisaient avec nous. Un saxophoniste américain et une pianiste russe. Et c'était un grand, grand moment. C'est un moment où on s'abandonne complètement au temps présent. Alors, parfois c'est réussi, parfois c'est raté. Ce qui compte, c'est l'expérience.
Mais c'est... Ouais, c'est...
On n'est pas là, en tout cas, en tant que danseur, pour moi, pour illustrer la musique. Pas du tout.
Ok.
Voilà. Elle aide, elle enveloppe, parce qu'elle fait partie de la même... La danse et la musique sont mariées entre elles. Mais, voilà. Pour moi, on n'est pas là pour illustrer la musique. On est là pour se rencontrer.
Non, non, non. Justement, la danse est une discipline à part. Et elle a sa propre identité. D'accord. Alors, dans ton enseignement, quel piège à éviter ?
Tu veux dire pour ceux qui aimeraient faire de la danse, qui veulent s'inscrire à un cours
À partir de tes connaissances, ton expérience et ta pédagogie.
Parce qu'il y a plusieurs pièges, parce qu'il y a plusieurs personnes en face. Enfin, j'enseigne autant à des gens qui commencent la danse qu'à des professionnels ou des futurs professionnels, et les pièges ne sont pas les mêmes.
Par exemple, pour un débutant...
Le premier piège, je pense, c'est de se comparer aux autres, par exemple.
Ok.
C'est vraiment...
Oui.
Là-dessus, c'est terrible parce que voilà, on a tous des corps différents, des aptitudes différentes. Et si on commence par se comparer aux autres, ça va être vraiment compliqué.
Des rythmes différents aussi, oui.
Voilà.
Est-ce que tu utilises un miroir?
Ça dépend des cours.
D'accord.
Au studio Archipel où j'enseigne depuis plusieurs années, il n'y a pas de miroir. Ça aide beaucoup les gens à être connectés avec leurs sensations. Après, c'est vrai que j'enseigne aussi aux jeunes ballets de l'Hérault. Ce sont des futurs professionnels. Je leur enseigne la danse contemporaine. Ce sont des élèves qui ont un rythme intensif en danse classique depuis qu'ils sont tout petits. Mmh. Et eux, ils ont vraiment l'habitude de travailler avec le miroir, et c'est important parce qu'ils savent se corriger eux-mêmes. En fait, on n'utilise pas le miroir pour se regarder. On l'utilise pour
les placements, peut-être.
Le placement, exactement. Et du coup, c'est quand même super utile quand on travaille la technique.
D'accord. Moi, je viens d'une école de théâtre et on couvrait, justement.
Voilà, le top, c'est d'avoir un rideau, un miroir et un rideau. Voilà, comme ça.
Voilà. Nous, on nous interdisait parce que le maître nous disait que c'était que le vrai professionnel, quand il allait vraiment corriger quelque chose, qui allait se regarder.
C'est pour ça que je dis que là, ça dépend des personnes. Et que, par exemple, le miroir est utile, par exemple, avec les élèves du jeune ballet qui ont un top niveau, alors que ce serait plutôt un handicap pour... les cours de danse contemporaine, par exemple, où c'est de l'improvisation, et que si les élèves commencent à se regarder, ils vont réfléchir, et on en revient au départ. Je ne veux pas qu'ils réfléchissent.
D'accord. On va faire une petite pause et on revient avec nos chers auditeurs.
Oh, of the string.
Continue dans notre émission Mon Chaussure aujourd'hui avec Masha, une danseuse et enseignante de danse contemporaine. On était en train de parler tout à l'heure en dehors du micro de ce que tu faisais avant. Est-ce que la danse a toujours été truc officiel ou...
Alors j'ai travaillé dans la publicité en tant que graphiste. C'était mon tout premier travail salarié. J'ai travaillé en tout 6 ans en publicité. Parallèlement, quand même, j'ai aussi fait partie d'un collectif à l'époque, pas loin d'ici, qui s'appelait l'Atelier du Préau, et c'était une galerie d'art contemporain où on demandait à plusieurs artistes de travailler sur une exposition. Par exemple, on mélangeait, un sculpteur et une danseuse, un peintre et un photographe, ou quelqu'un qui travaille le son et quelqu'un qui fait de la BD. On leur demandait de travailler pendant 1 mois ensemble.
Ah, un mois, carrément.
Voilà, pour vraiment produire une exposition. Et donc, c'était dans le quartier, c'était super. Concernant la publicité et l'agence de publicité, à la fin de ce début de carrière, j'ai commencé la danse vraiment de façon plus intensive. Et au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix.
D'accord. Est-ce que tu as eu des maîtres, des personnes référentes importantes ou pas trop?
Oui, si, j'ai mon enseignant au Crêpes de Montpellier qui s'appelait Thierry Boyer, qui était un grand maître, qui était un immense pédagogue, qui m'a tout appris.
D'accord.
Et depuis 2015, j'effectue aussi des stages régulièrement auprès de Horad Naharin ou des danseurs de la Bat Sheva Dance Company. Et ah, c'était mon beau. Deuxième grand maître qui a transformé aussi complètement ma vie.
Ta façon et ma danse. Ton mouvement aussi. D'accord. Alors on va passer à parler peut-être de la transmission en dehors de l'école. Est-ce que tu penses que ça a une place ou quelle place tu lui donnes?
Moi, je pense que ça devrait être obligatoire à l'école. Il devrait y avoir des cours de danse obligatoires. Et sinon, en dehors de l'école, bah, malheureusement, ça va dépendre du milieu social, hein, souvent aussi, l'accès à la danse. Donc, c'est problématique. Après, ça dépend des pays. Il y a des pays où la danse, elle est dans la rue du matin au soir. Donc, voilà.
Et en quoi ça apporte à un être humain de danser?
Ça le reconnecte à son authenticité primordiale.
Authenticité, donc tu le relis à quelque chose qui est dans
qui est dans en deçà des mots, en deçà de la culture ou du pays dans lequel on est né. N'importe quel enfant, tout petit, avant même de marcher, enfin, dès qu'il se tient debout, si on met de la musique, il va commencer à danser. C'est quelque chose de naturel.
De naturel. En parlant dehors du micro aussi, quelque chose qui me semble intéressant de ton discours, c'est la place du langage, où tu essayes, bon si tu veux plutôt parler toi, je ne parle pas à ta place. La place du langage, on parlait des choses intéressantes sur ça aussi.
C'est-à-dire que la danse est une forme d'expression qui pour moi se situe en deçà des mots. Et que justement, quand on nomme quelque chose, on l'emprisonne. Et la danse, c'est vraiment la liberté.
C'est beau, ça. Oui, le langage, c'est cette problématique, c'est que dès qu'on nomme quelque chose, on va forcément l'encercler. On va la mettre dans une cage.
Exactement.
Et l'identité même de la chose va perdre un peu.
Voilà.
Donc c'est intéressant parce que... ça touche à la nature même de la pratique physique de la danse. Très bien. Et est-ce que tu as un pas des danses préférées?
Alors, c'est vrai que dans la mesure où j'ai commencé par la danse classique et que c'est ma grand-mère qui m'a appris les pliés, ce qui commence
à la
une
maison.
Séance, ouais, ce qui commence une séance de danse classique. Je veux dire que les demi-pliés, les grands pliés. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment comme si je rentrais à la maison.
D'accord. Donc c'est un geste de confort, un geste où tu te sens...
C'est un geste de transformation.
Wow.
C'est un geste qui nous dépose dans un autre univers.
Oui. Oui, parce que c'est relié à ce que tu disais tout à l'heure avec la terre, non? De cette sensation de connexion de la colonne vertébrale.
Tout à fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la cérémonie dans les pliés classiques.
Oui, c'est vrai que c'est une posture élégante.
Il y a quelque chose comme on rentre dans un état de danse. On n'exécute pas quelque chose, on rentre dans une vague qui existe déjà.
D'accord. Très profonde. J'aime beaucoup t'entendre parler. Très bien. Et est-ce que tu as des luttes? Tu as des dispositions, des impulsions, des mouvements, des suggestions?
Ma lutte, c'est de continuer, de m'acharner, à continuer la danse, peu importe dans quelle case on me range, ou peu importe ma place dans la société, ou, etc. Ma lutte, c'est de continuer d'être obstinément libre danseuse et chorégraphe.
D'accord. Tu penses quoi de ton réseau? Comment tu les vis? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, en dehors du micro, de tes visites en Allemagne. C'est un pays qui te...
Oui, en fait, moi, mon réseau, c'est vrai que grâce quand même à Internet, j'ai eu la chance, une quinzaine d'années, d'être découverte par deux grands artistes. Une vidéaste qui habite à Berlin, qui s'appelle Corinna Rostek, avec laquelle on collabore depuis. On fait de nombreuses œuvres mixed media, on va dire, qui mélangent vidéo, danse, musique... Voilà. Et Carl Eward, qui est le fondateur d'un collectif d'art contemporain international qui est basé à San Francisco.
Ah oui.
Avec lequel on fait des résidences artistiques dans le monde entier chaque année. Et donc ça, c'est vraiment une grande chance pour moi, parce que si j'avais attendu
les dossiers français,
les décisions des institutions françaises sur mon travail et est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est pas de l'art et est-ce que vous êtes professionnel ou pas professionnel ou j'en serais jamais là, j'en serais jamais où je suis et j'aurais pas ces 20 ans de carrière derrière moi. Donc c'est vraiment voilà, j'ai eu une grande chance d'être reconnue par des gens au niveau international. Même si j'adore quand même Montpellier, parce que dans mes cours, j'attire des gens formidables chaque année depuis 20 ans. Mais au niveau artistique, c'est pas ici que j'arrive à diffuser mon travail.
À diffuser ton travail, ouais.
Mais nul n'est prophète en son pays, donc.
Ouais. Mais l'Allemagne, c'est un pays qui m'est très cher. J'ai vécu aussi des expériences artistiques là-bas. Et c'est vrai que c'est tout un univers... J'oserais dire que c'est beaucoup plus ouvert dans le sens où on te...
Énormément.
On te juge beaucoup moins.
Beaucoup moins de jugement, beaucoup moins de... On est beaucoup moins catalogué, analysé. On nous donne beaucoup plus de chances de partager, en fait. Hein. Mais c'est une société, en tout cas à Berlin, parce que je ne peux pas parler de l'Allemagne.
Berlin,
hein.
C'est
en tout cas à Berlin, ils ont dû se reconstruire après des choses horribles. Et ce gros pouvoir de résilience a amené une société où les jeunes ont beaucoup plus la parole. Et
ah oui.
Je pense que ça y fait aussi quand même beaucoup.
Ça joue. Hein. Est-ce que tu vois que la société s'est transformée un peu? C'est quoi ton...
Forcément. Hein. Du haut de mes 51 ans, je vois la société se transformer.
Tu as 51 ans?
Ouais. Mais la danse conserve.
Chers auditeurs, il ne ressemble pas du tout à une femme de 51 ans. Je suis épatée.
Donc forcément, voilà, un demi-siècle, la société a changé. Il y a des choses meilleures, il y a des choses pires.
Oui.
Voilà.
D'accord. Quelque chose à rajouter peut-être de... Une petite expérience anecdote dernière avant de partir.
Je vais danser à New York pour la première fois de ma vie, fin octobre.
D'accord.
Voilà, avec ma compagnie Pulsar.
D'accord. Et c'est toi qui danses ou c'est...
Oui. Okay. Je chorégraphie et je danse. Je projette aussi une vidéo danse qu'on a réalisée ici avec une artiste qui s'appelle Céline K, qui est une artiste photographe à Montpellier, dont j'apprécie énormément le travail. Et donc, on est vraiment contente d'aller montrer ce travail à New York. Ce sera ma première fois aux États-Unis, fin octobre, juste avant les élections. Donc, j'espère que ça ira.
D'accord. Est-ce que tu écris?
Oui.
Tu as une pratique?
Oui, j'écris tous les jours, tous les matins.
Ah ouais? D'accord. Et c'est une écriture réflexive, plutôt...
C'est comme un journal, et c'est vraiment super, okay. Parce que c'est le meilleur bouquin à relire après. Et puis j'écris aussi tout depuis que j'ai commencé à performer et à enseigner, j'écris mes réflexions sur cette expérience. Ça me permet de me faire avancer. Ouais.
De relier
la
pensée.
L'écriture, c'est super aussi, surtout quand on la laisse faire.
Oui, oui. Ouais, l'écriture, c'est une colonne vertébrale. Ben Marcha, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici, de partager avec nous autant d'expériences. Et voilà, donc la porte reste ouverte ici, dans la Divergence.
Super.
Dans cette radio qui nous accueille et qui nous offre un espace de liberté, justement.
Super.
Pour laisser danser nos petites oreilles. Mes chers auditeurs, je vous souhaite une bonne journée ou une soirée. Et je vous souhaite... les meilleurs. On se verra une prochaine fois.
Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and table down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit! On se tourne vers le miroir, allez!